Matin Première.
Medical Fat.
Il est 7h47, voici l'interview de Matin Première. Bertrand, vous recevez ce matin Marianne Denis, spécialiste en politique européenne, professeur à l'ULB. C'est à vous.
Bonjour Marianne Denis.
Bonjour.
Le titre du Monde ce matin, en tout cas sur leur site internet, le rejet wallon du traité commercial CETA avec le Canada plonge l'Europe dans le désarroi. Voilà. Est-ce qu'on en est là, Marianne Denis, est-ce qu'on vit une nouvelle crise de légitimité pour l'Union européenne?
On traverse une très grave crise supplémentaire et c'est la, voilà, c'est la quatrième, la cinquième. En fait, j'ai l'impression que depuis 2005, l'Union européenne n'arrête pas d'aller de crise en crise et oui, celle-ci est effectivement à nouveau une crise grave parce que pour moi, c'est un problème de se retrouver coincé pour l'Union européenne entre sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires commerciaux. Une négociation a été terminée avec le Canada qui, légitimement, pouvait s'attendre à ce que cet accord soit signé, puisqu'il avait été approuvé par les 28 États membres, et légitimité par rapport à l'expression de la volonté populaire
qui s'exprime
la légitimité démocratique. Et donc, il va être difficile de pouvoir concilier ou de pouvoir répondre à cette double légitimité, on risque, dans un cas comme dans l'autre, de finalement faire des mécontents.
Alors, vous disiez, c'est au moins peut-être la quatrième ou cinquième crise, j'ai repris moi la dernière. Il y a déjà eu le Brexit, évidemment, grosse crise, un scrutin populaire qui est un désaveu pour la construction communautaire, pour l'Union européenne. Il y a eu un vote également aux Pays-Bas sur un traité, ce n'est pas un traité de libre-échange, mais un traité de commercial et de relations avec l'Ukraine. Et puis encore avant, il faudrait remonter un peu plus dans l'histoire. Est-ce qu'on est à ce niveau de crise-là, Marianne Denis?
Ah oui, tout à fait. Et pour moi, même peut-être encore un peu plus, parce que on en arrive vraiment à ce que on a pu signer un accord, enfin, on a accepté un accord à 28, et il se fait qu'un des 28, de par sa structure interne, n'est pas en mesure de respecter sa parole.
Oui.
Et ça, c'est un véritable problème pour la construction européenne.
Oui. Donald Tusk, le président du Conseil européen, a mis lui-même la barre assez haut en disant « L'accord de libre-échange avec le Canada pourrait être le dernier traité commercial négocié par l'Union, pardon, si les dirigeants européens n'arrivent pas à convaincre l'opinion publique que ces accords sont dans son intérêt. »
Mais écoutez, je ne suis pas souvent d'accord avec ce que dit Donald Tusk, mais là, pour une fois, je dois lui donner entièrement raison. On sent que ces accords de libre-échange sont des accords qui font peur, parce que la mondialisation fait peur. Et d'un autre côté, tous les économistes nous disent que sans libre-échange, la situation économique sera encore bien pire. Alors comment arriver à réconcilier l'opinion publique avec ces accords de libre-échange et les contraintes que ces accords de libre-échange impliquent nécessairement pour la souveraineté des États. Et c'est là, on voit en s'arc-bout actuellement sur la souveraineté des États. Et puis, forcément, un accord de libre-échange, il y a des produits qui vont arriver alors que les gouvernements de ces États ne les souhaiteraient pas nécessairement. Ça implique nécessairement une perte de souveraineté et on sent que pour le moment, cette perte de souveraineté, les populations en ont très peur. Et ça exprime, à mon sens aussi, surtout une énorme peur. On a peur de beaucoup de choses. Et donc, à travers cette peur, eh bien, cette peur se traduit par le refus de tout ce qui pourrait encore aggraver la situation.
Ça, c'est la donne qu'on sent dans beaucoup de pays européens, même aux États-Unis, avec le protectionnisme prôné notamment par Donald Trump. Puisque cette peur est là, pourquoi est-ce que, au niveau des autorités de l'Union européenne, on ne semble pas l'entendre ou pas le comprendre?
Mais je crois qu'on commence à le comprendre, mais aussi le grand problème de l'Union européenne, c'est qu'elle ne dialogue, elle ne peut même pas dialoguer directement avec les citoyens. Il y a toujours, excusez-moi,
je vous en prie,
il y a toujours le filtre des États. Et donc, ici, on voit, en définitive, des États se sont engagés sur un accord international et ce sont ces États qui doivent maintenant les ratifier et ces États n'ont pas expliqué, n'ont pas fait en sorte que leur population s'approprie cet accord. Donc c'est finalement, les États forment un écran entre l'Union européenne et les citoyens. Et par ailleurs, bon, il faut savoir que dans certains États, comme en Belgique, ce traité suscite énormément de réactions négatives.
C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Allemagne,
peut-être moins le CETA en Allemagne, en fait.
En Autriche aussi.
Mais par exemple, un pays comme la France est extrêmement favorable au CETA. Et je dirais, on voit un monde de différence entre les agriculteurs wallons qui sont opposés farouchement à cet accord et les agriculteurs français qui sont farouchement favorable à cet accord parce qu'il leur est extrêmement favorable sur toute une série de points, parce que effectivement toute une série d'intérêts de la France ont été pris en compte.
Je vais vous poser la question directement. Est-ce que vous trouvez que les demandes wallonnes, les questions qui sont posées par la Wallonie, et il y a eu de longs débats parlementaires depuis presque un an maintenant, sont légitimes?
Mais ce sont des questions effectivement qu'on peut se poser légitimement, mais je dirais, il faut, moi je prendrais d'une manière différente les différentes questions. D'abord, tout ce qui concerne les produits et l'agriculture. Là, j'ai personnellement un grand problème parce qu'on est dans le cœur de la politique commerciale de l'Union européenne, qui est une compétence exclusive de l'Union européenne.
Ouais, les États n'auraient pas tellement à se prononcer
voilà,
là-dessus.
Voilà, exactement. Pour moi, c'est pas une question dont les États devraient se mêler parce que il y a un équilibre au niveau des échanges de biens qui est établi. Il y a des gagnants et des perdants partout. Et donc, si un État décide de dire, parce que ma population, mes agriculteurs sont un peu perdants, je ne veux pas l'accepter, mais alors on ne peut plus faire un accord de libre-échange du tout.
Oui. Ça, c'est la, remise en cause quasi de la souveraineté ou du transfert de souveraineté qu'il y a eu sur ces questions à la Commission européenne.
Oui, ça, ça, c'est exact.
Alors, il y a aussi d'autres questions plus de principe. Et Paul Magnette les a évoquées ici à ce micro, c'était mardi matin, sur notamment l'arbitrage, cette possibilité pour les entreprises, les multinationales, de passer outre les droits des États. Est-ce que ça vous semble pas, vous qui êtes juriste, Marianne Denis, quelque chose de choquant?
Mais là, j'aurais à nouveau une opinion assez nuancée. C'est quelque chose, en réalité, d'extrêmement difficile, parce qu'il faut se rendre compte que, dans ce type d'accord, en fait, on a un choix. Soit on dit, ce sont les juridictions nationales qui vont contrôler les accords, mais donc, à ce moment-là, on doit reconnaître ce qu'on dit, en termes de jargon juridique, un effet direct à ces accords. Mais si on accorde un effet direct à ces accords, ça signifie qu'une entreprise qui est mécontente d'une réglementation nationale, qui considère qu'elle viole cet accord, peut demander la non-application de cette législation nationale. Et ça, les États ne le veulent pas. Mmh. Et c'est pour ça que les États, en réalité, pour sauvegarder d'une certaine manière
leur prérogative, leur souveraineté, on en revient au mot souveraineté.
Leur souveraineté, leur capacité de régulation, se disent, on va faire appel plutôt à des tribunaux arbitraux et qui vont trouver une solution à travers une indemnisation. Oui. Mais il faut bien dire que ce n'est pas toute réglementation qui sera remise en cause. C'est uniquement si la réglementation est discriminatoire, n'est pas fondée sur des motifs d'intérêt général.
Oui. En réalité, donc l'arbitrage, c'est pour protéger les États.
Mais l'arbitrage, c'est d'une certaine manière, les États choisissent cette formule-là pour les protéger, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça a quelque chose d'extrêmement gênant en ce que cela vient faire intervenir des représentants du privé et que donc ce sont des juridictions privées. Personnellement, en tant que juriste, c'est vrai que j'aurais une préférence pour un système tel que celui qui existe dans l'OMC, où on n'a pas non plus voulu donner effet direct, mais où on a des panels, mais des panels qui sont essentiellement composés de représentants étatiques. C'est la participation du privé qui, effectivement, peut en tout cas poser question.
Alors, la Wallonie continue de négocier ce matin, au moment où on parle, mais avec le Canada. Et plus avec la Commission européenne, ou en tout cas plus seulement avec la Commission européenne. C'est le message qui a été passé hier par les autorités wallonnes. Est-ce que ça ne dit pas aussi, peut-être, si pas de l'arrogance, en tout cas, de la distance politique qu'il y a entre la Commission et la Wallonie, qui, dit-elle, n'a pas été écoutée, on l'a pris de haut, on n'a pas fait attention, alors que depuis un an, la Wallonie martèle son message, il y a quelque chose qui ne va pas.
On peut le voir comme ça, on peut aussi le voir d'une autre manière, qui consiste à dire, bon, mais la Commission européenne, elle entend, ou elle a reçu les arguments de la Wallonie, mais il faudra convaincre le partenaire. Et donc, si on fait venir le partenaire, c'est peut-être aussi pour déterminer quelle est la marge de manœuvre que l'Union européenne a par rapport à cet accord. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que là, on va se lancer dans des discussions directes. La Wallonie pourra peut-être obtenir quelque chose. Mais on ouvre une boîte de Pandore, parce que si...
Tous les autres vont demander
Tous les autres
choses,
risquent de demander autre chose. Et ça, c'est le gros problème.
Alors, l'autre sujet, c'est l'autre crise. C'est le Brexit. C'est le premier sommet où la première ministre britannique Theresa May assiste donc avec ses concitoyens à un sommet européen. Est-ce qu'on peut sortir du haut ? L'Europe peut sortir par le haut du Brexit ?
C'est très difficile à dire. L'Union pourrait saisir l'occasion de l'ensemble de ces crises pour sortir par le haut, mais je dois dire qu'à titre personnel, c'est la première fois que j'ai des réelles inquiétudes pour la construction européenne, parce que la déclaration de Bratislava ne m'a absolument pas convaincue.
Il faut redire peut-être aux auditeurs ce qu'est la déclaration de Bratislava.
Oui, la déclaration de Bratislava, c'est-à-dire que c'est la déclaration que les 27 chefs d'État et de gouvernement ont fait pour justement définir une feuille de route qui permettrait à l'Union européenne, à 27, de sortir de la crise. Mais pour moi, ça reste quand même très fort du vent. Et
c'est loin d'être clair.
Suffisamment de choses. Et,
et en même temps, les Britanniques se montrent assez durs quand on voit que, par exemple, il y a une idée d'appliquer un contrôle d'immigration pour les Européens qui vont venir dans le Royaume-Uni, de ficher les entreprises qui ont des salariés étrangers, etc. On va vers un Brexit très dur.
On va vers un Brexit très dur. Et une dernière difficulté que je voudrais très brièvement souligner,
allez-y.
Vu la position que le Royaume-Uni prend en termes d'immigration, on semble s'orienter vers un accord qui serait un accord type CETA avec le Royaume-Uni.
Oui, et on va traiter avec le Royaume-Uni comme on le traite avec le Canada.
Voilà, mais on va se retrouver avec exactement les mêmes difficultés que celles que pose le CETA maintenant. Et donc ça pose vraiment la question de l'avenir des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Oui, la légitimité de l'Europe est en train de se jouer.
La légitimité de l'Europe et son avenir est en train de se jouer, effectivement, pour le moment.
Voilà l'analyse de Marianne Denis, professeure à l'ULB, spécialiste en affaires européennes.
Mieux comprendre l'Europe avec Euronet Plus, le premier réseau d'information européenne.